VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 26 juin 2023. En Sierra Leone, le président sortant largement en tête du premier tour selon des résultats partiels de la commission électorale portant sur 60% des bulletins de vote. Au Soudan, les paramilitaires s'emparent du QG de la police à Khartoum. Au Kenya, le président promulgue une loi de finances décriée, retour à la normale en Russie après la révolte avortée de Wagner qui révèle, selon les Occidentaux, la fragilité du régime de Poutine.
Tout ça, ça prouvait qu'en réalité, en Russie, il n'existait pas l'État et Poutine n'était pas le président.
Sergueï Zhirinov, ancien agent du KGB, répondra dans la partie magazine à des questions laissées en suspens. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En Sierra Leone, le président sortant Julius Maada Bio est en tête de l'élection présidentielle avec 55,86% des voix après 60% du dépouillement selon les chiffres partiels fournis aujourd'hui par la commission électorale. Nani Talani.
Avec 1 607 666 voix, Julius Maada Bio devance Samora Camara qui a reçu 793 751 voix, soit 41,53% des suffrages, d'après les chiffres donnés par Mohamed Kenewi Kone, le président de la commission électorale. Les résultats définitifs seront annoncés dans les 48 heures, a-t-il précisé. Si les tendances se poursuivent, M. Bio serait réélu pour un second mandat, car le candidat qui recueille plus de 55% des suffrages est élu dès le premier tour. Quelques 3,4 millions de personnes étaient appelées samedi à choisir entre 13 candidats pour la présidentielle, un scrutin aux allures de revanche de 2018 entre M. Bio, ancien militaire à la retraite de 59 ans, qui brigue un second mandat, et M. Camara, technocrate de 72 ans. Les forces de sécurité ont violemment dispersé dimanche soir des opposants à Freetown, au siège du parti APC, alors que l'élection s'était déroulée globalement dans le calme. Une femme a été tuée dans ces troubles, a dit le porte-parole de l'APC, mais la police n'a pas confirmé de décès.
Une foule a lynché dimanche un homme musulman dans une ville du nord du Nigeria, l'accusant d'avoir blasphémé contre le prophète Mahomet. Ousmane Bouda, un boucher travaillant dans les abattoirs de la ville de Sokoto, s'est vu infliger de graves blessures, a déclaré dimanche soir le porte-parole de la police. Les agresseurs ont pris la fuite lorsque la police est arrivée sur les lieux et M. Bouda a été transporté à l'hôpital où son décès a ensuite été confirmé par la police. Au Soudan, les forces paramilitaires annoncent avoir pris le contrôle du quartier général de la police à Khartoum. Depuis samedi, les combats se sont intensifiés dans la capitale, Bari et Omdurman, alors que le conflit est entré dans sa 11e semaine. Alexandre Nolognon.
Une vidéo publiée par les forces de soutien rapide montre des soldats à l'intérieur de l'unité faisant la fête devant des chars et des armes à l'intérieur d'un entrepôt. Ce matin, des habitants de Kourmouk, sur la frontière avec l'Éthiopie, rapportent qu'un groupe rebelle a lancé une attaque contre l'armée. Ce même groupe avait déjà ouvert jeudi un nouveau front au Kordofan Sud, frontalier du Soudan du Sud, obligeant l'armée à répondre sur différents fronts, tous dans le sud. Les combats se sont intensifiés. Une série d'accords de cessez-le-feu conclus lors de pourparlers menés par les États-Unis et l'Arabie Saoudite à Jeddah n'ont pas été respectés. Les pourparlers ont été ajournés la semaine dernière. L'ONG Acled recense plus de 2800 morts, un bilan largement sous-estimé, car aucun des belligérants n'a rendu public ses pertes et de nombreux corps jonchent les rues à Khartoum et au Darfour, vaste région de l'ouest frontalière du Tchad, où les affrontements sont les plus violents.
Au Kenya, le président William Ruto a promulgué une loi de finances qui instaure de nombreuses nouvelles taxes, a annoncé aujourd'hui la présidence, malgré les critiques de l'opposition et de la population de ce pays touché par une forte inflation. Rosine Monizero.
Le texte voté la semaine dernière par le Parlement prévoit une hausse de la TVA sur les carburants de 8 à 16%, un prélèvement impopulaire sur les salaires pour financer un programme de logement à bas prix. Initialement prévu à 3%, il a été réduit à 1,5%. Avec ce projet, le gouvernement de William Ruto, élu en août 2022, vise à sauver les caisses de l'État, lourdement endettées par les grands projets d'infrastructure de son prédécesseur Uhuru Kenyatta, dont il a été le vice-président. La dette publique kényane culmine à 65 milliards d'euros, soit environ 67% du produit intérieur brut, et son remboursement devient de plus en plus coûteux avec la dépréciation continue du shilling. La coalition d'opposition Azimio va décider mardi d'éventuelles actions contre ce texte. Entre mars et mai, elle avait organisé des manifestations qui ont fait, selon les autorités, 3 morts.
La présidente de la Commission nationale électorale d'Éthiopie, Birtukan Mideksan, une opposante qui était en poste depuis décembre 2018, a annoncé lundi avoir remis sa démission pour des raisons de santé. Ancienne juge, puis dirigeant de l'opposition, emprisonnée dans les années 2000 sous le régime de la coalition dominée entre 1991 et 2018 par le Front de libération du peuple du Tigré, ensuite exilée aux États-Unis, Madame Birtukan avait été choisie par le nouveau premier ministre Abiy Ahmed peu après son arrivée au pouvoir en 2018 pour présider la commission électorale.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le groupe paramilitaire Wagner va continuer d'opérer au Mali et en Centrafrique, assure le chef de la diplomatie russe. Sergueï Lavrov affirme que la rébellion de cette organisation n'affectera pas la relation entre Moscou et ses alliés. Les réactions se poursuivent dans le monde après cette mutinerie. Yacouba Ouedraogo.
Les membres de Wagner travaillent au Mali et en République centrafricaine comme instructeurs. Ce travail va bien sûr continuer, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Le premier ministre russe, Mikhaïl Mishoutine, a appelé les membres de son cabinet à rester unis derrière le président Vladimir Poutine. Moscou a bénéficié du soutien de la Chine, de l'Iran et de la Turquie, membres de l'OTAN. Cette crise révèle des fissures réelles au plus haut niveau de l'État russe, estime le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. C'est aussi l'avis du président Emmanuel Macron qui parle de fragilité à la fois des armées russes et de ses forces auxiliaires. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, affirme que la mutinerie montre que l'invasion de l'Ukraine est une erreur. Le chef de Wagner, Evgeny Prigojine, auteur d'une mutinerie avortée le week-end, avait promis de libérer le peuple russe, accusant le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, et le chef d'état-major, Valery Gerasimov, d'avoir sacrifié des milliers d'hommes en Ukraine. Le Kremlin dit avoir conclu un accord pour que Evgeny Prigojine aille en Biélorussie et bénéficie d'une amnistie, de même que ses soldats.
Le dirigeant du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, a assuré aujourd'hui que sa mutinerie, lancée samedi, puis avortée en fin de journée, n'avait pas pour objectif de renverser le pouvoir russe. Dans un message de 11 minutes publié sur la messagerie Telegram, Evgeny Prigojine déclare que l'objectif de son coup de force vers Moscou était d'empêcher la destruction de Wagner et de protester contre l'inefficacité du commandement militaire russe en Ukraine. L'OTAN tiendra des pourparlers sur l'adhésion de la Suède à l'Alliance Atlantique avant son sommet du mois prochain avec l'accord de la Turquie qui entrave le processus, a déclaré son chef ce lundi. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a indiqué qu'il s'était entretenu avec le président turc Recep Tayyip Erdogan et avait accepté de convoquer une réunion de haut niveau à Bruxelles avant le sommet. Le sommet de l'OTAN en question aura lieu à Vilnius, la capitale lituanienne, les 11 et 12 juillet prochains. En Grèce, le conservateur Kyriakos Mitsotakis a prêté serment aujourd'hui et entame un deuxième mandat en tant que premier ministre après sa victoire écrasante lors des élections législatives de dimanche, promettant de créer des emplois, d'augmenter les salaires et de dynamiser les recettes de l'État. Nouvelle démocratie, le parti de centre droit dont il est issu, a remporté 40,5% des suffrages, lui conférant 158 sièges sur 300 au Parlement, soit 20 points de plus que le parti de gauche Syriza, qui a dirigé la Grèce de 2015 à 2019, au plus fort de la crise économique qui a touché le pays. La France a condamné aujourd'hui les violences exercées par les colons israéliens qui ciblent des civils et leurs propriétés. La France a une nouvelle fois exhorté le gouvernement israélien à revenir sur sa décision visant à accélérer la procédure d'autorisation de construction de logements dans les colonies et à renoncer à approuver des projets de construction de près de 5000 nouvelles unités de logement dans plusieurs colonies de Cisjordanie. Et puis l'armée pakistanaise a annoncé aujourd'hui que plus de 100 personnes étaient jugées par des tribunaux militaires pour leur rôle dans les violences liées à l'arrestation le 9 mai de l'ex-premier ministre Imran Khan, qui ont valu à 3 officiers d'être envoyés. Les manifestants pro-Khan avaient endommagé des édifices publics, mais aussi, chose rare, des symboles militaires. Les autorités les ont accusés d'actes de terrorisme, notamment. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
En Côte d'Ivoire, les pluies supérieures à la moyenne dans la plupart des régions la semaine dernière ont inondé les plantations de cacao et pourraient affecter le démarrage de la prochaine récolte principale d'octobre à mars. D'après plusieurs producteurs, les inondations les ont empêchés d'accéder à leur culture. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, est dans sa saison des pluies qui s'étend d'avril à mi-novembre avec des averses abondantes et fortes. Au Nigeria, la compagnie pétrolière nationale a dépensé 10 milliards de dollars l'an dernier pour les subventions sur le carburant et 2,41 milliards de dollars au cours des 5 premiers mois de 2023 qui ont précédé l'abandon de ce programme. Le président Bola Tinubu, qui s'est lancé dans de grandes réformes pour s'attaquer au lourd fardeau de la dette, a supprimé la subvention populaire, mais coûteuse, lors de son investiture le mois dernier. Pour terminer, l'entreprise publique marocaine OCP prévoit de s'appuyer entièrement sur l'eau dessalée pour ses opérations industrielles d'ici 2027, a déclaré Reuters. Elle veut aussi lancer des appels d'offres au début de l'année prochaine pour étendre la capacité de dessalement à Safi et Djorf Lasfar sur l'Atlantique. Son projet Tarfaya porte sur une usine de dessalement alimentée par des énergies renouvelables d'une capacité de 60 millions de mètres cubes par an pour alimenter les installations industrielles.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Direction le Maroc avec le début de la CAN des moins de 23 ans.
Oui, le pays hôte, le Maroc, a démarré par une victoire 2-1 face à la Guinée. Dans un match spectaculaire, Issam Charaï, le sélectionneur des Lionceaux, est heureux de cette victoire, même si elle a été difficile.
Les jeunes joueurs ont commencé un peu crispés au match. C'est normal, c'est un grand tournoi. Ils sont très, très enthousiastes pour essayer de faire un bon résultat. Ils n'ont pas directement trouvé des solutions offensives. Alhamdoulilah, je pense que le dernier quart d'heure du premier mi-temps, c'était beaucoup mieux. Et la deuxième mi-temps, on a poussé beaucoup plus, on a créé beaucoup plus d'occasions. Et alhamdoulilah, on a gagné le match.
Issam Charaï, sélectionneur du Maroc, au micro de notre correspondant à Casablanca, Amine Birouk. Les espoirs marocains partagent la tête du groupe A avec le Ghana victorieux 3-2 du Congo. Dans la poule B, le Mali est le seul en tête après son succès 3-1 sur le Gabon. Les Aiglons comptent 2 points de plus que l'Égypte et le Niger qui se sont neutralisés 0-0. La compétition marque une pause aujourd'hui pour reprendre demain avec la deuxième journée des matchs de poule. 2 matchs au programme Congo-Guinée et Maroc-Ghana.
Au chapitre des transferts, Khalidou Koulibaly rejoint Al Hilal.
Le défenseur international sénégalais va quitter Chelsea pour évoluer avec l'équipe saoudienne d'Al Hilal. L'annonce est faite par le club anglais qui ne précise pas le montant du transfert, mais la presse évoque une indemnité de transfert autour de 23 millions d'euros pour un joueur acheté à 38 millions d'euros il y a un an. Le joueur de 32 ans avait rejoint la capitale londonienne l'été dernier en provenance de Naples, mais il a globalement déçu lors d'une saison très compliquée pour les Blues qui ont fini 12e de Premier League et connu 3 entraîneurs différents. Khalidou Koulibaly a tout de même disputé 32 matchs sous le maillot bleu. D'autres joueurs africains comme le Marocain Hakim Ziyech, le gardien Edouard Mendy, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang sont ciblés par des clubs du Royaume.
Victor Wembanyama renonce au Mondial 2023 avec les Bleus.
La nouvelle sensation de la NBA a annoncé qu'il ne participerait pas au Mondial 2023 avec la France, évoquant un sacrifice nécessaire. Victor Wembanyama va disputer sa première saison avec les San Antonio Spurs. Ce ne serait pas réaliste en termes de développement et pas prudent en termes de santé, a affirmé Wemby. L'ancien joueur des Métropolitains 92 a jugé ce choix à la fois irrévocable et frustrant. Il a ajouté qu'une participation au prochain mondial du 25 août au 10 septembre en Asie aurait signifié un total de 170 matchs en 24 mois, en y incluant la saison à venir et les Jeux Olympiques de Paris 2024. Wembanyama a assuré que sa nouvelle franchise en NBA n'a pas fait pression pour qu'il renonce au mondial.
Page de sport VO Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les États-Unis suivent de très près ce qui s'est passé en Russie après la révolte avortée du groupe Wagner. Pour le patron du département d'État, il y a des fissures au sommet de l'État russe et Washington va continuer son soutien à l'Ukraine. Veronica Balderas-Iglesias de la VOA décrit ce que certains analystes pensent de cette rébellion éphémère du groupe Wagner. Le récit avec Lionel Gaïma.
Un dimanche calme dans la capitale russe, au lendemain de la révolte des Evgueni Prigojine, chef du groupe Wagner et de ses troupes qui ont voulu marcher sur Moscou. Cela s'est terminé par un accord conclu avec la médiation du Bélarus. L'impact éventuel de ce défi armé sur le régime du président russe, Vladimir Poutine, n'est pas clair. Ces dernières semaines, Prigojine s'est montré de plus en plus critique à l'égard des chefs militaires russes et leur gestion de la guerre en Ukraine. Washington suit la situation de près, a déclaré le secrétaire d'État Anthony Blinken sur la chaîne ABC.
L'idée que cette guerre, cette agression de la Russie était menée sous de faux prétextes, l'idée que l'Ukraine ou l'OTAN représentait en quelque sorte une menace pour la Russie et qu'elle devait y faire face militairement, cette idée est maintenant beaucoup plus évidente qu'elle ne l'était. Qu'elle ne l'a été. Nous ne savons pas encore ce qui va en résulter.
Le soutien aux forces ukrainiennes restera la priorité des États-Unis, a ajouté Blinken.
Dans la mesure où les Russes sont distraits et divisés, cela peut rendre plus difficile la poursuite de l'agression contre l'Ukraine. D'un autre côté, il est évident que l'instabilité, quelle qu'elle soit dans un grand pays comme la Russie, qui est une grande puissance, est une source d'inquiétude.
En acceptant de ne pas poursuivre les rebelles Wagner, Poutine a peut-être pu limiter les dommages à sa propre réputation, estime Marina Miron, experte en études et défense.
Il n'y a pas eu d'effusion de sang. Poutine savait donc exactement sur quel bouton appuyer et il a réussi à régler la situation en coulisses.
Si, dans le cadre de l'accord, le chef de Wagner se trouve effectivement au Bélarus, il pourrait encore jouer un rôle dans la guerre contre l'Ukraine, a déclaré à Sky News, le général à la retraite Richard Dennett, ancien chef d'état-major général des forces armées britanniques.
S'il s'est rendu au Bélarus et a conservé une force de combat efficace autour de lui, il représente à nouveau une menace pour le flanc ukrainien le plus proche de Kiev.
Le secrétaire d'État Anthony Blinken, dont l'administration était, selon le New York Times, au courant des intentions de Prigojine, a déclaré que cette révolte soulevait des vraies questions et révélait des réelles fissures. Il a expliqué dimanche ne pas pouvoir spéculer ni dire exactement où cela va mener. Nous savons seulement, a-t-il dit, que Poutine devra répondre à de nombreuses questions dans les semaines et les mois à venir.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Cette rébellion du groupe Wagner a mis en évidence les risques pour un État de s'appuyer sur des acteurs privés pour les opérations militaires et soulève des questions sur la fiabilité de la présence russe en Afrique. Eric Manirakiza a joint à Paris Sergei Jirnov, ancien agent du KGB, principal service de renseignement russe de l'époque de l'Union soviétique.
Et Poutine, en réalité, ça fait depuis 10 mois que Poutine n'existe plus comme président. Parce que lorsque Prigojine, un personnage privé, passe son temps à insulter le ministre de la Défense, le chef d'état-major, à organiser des mutineries en permanence sur le front, dans un état normal, ça ne peut pas exister. L'État ne peut pas déléguer l'emploi de la force légitime à un personnage privé avec des flibustières, avec les bandits de grand chemin et avec les mercenaires. Et donc tout ça, ça prouvait qu'en réalité, en Russie, il n'existait pas l'État. Et Poutine n'était pas le président. Et donc, voilà, en fait, c'était quelque chose que moi, j'ai compris déjà il y a un an et demi, et que le monde entier est en train de comprendre un an et demi plus tard.
Et quelles sont les implications politiques et sécuritaires de cette mutinerie pour le gouvernement russe?
Ça a prouvé au monde entier, et surtout à l'intérieur de Russie, que l'État russe n'existe pas, que Poutine n'existe pas comme président. Et donc, soit il finit ce qu'il a à finir, c'est-à-dire il doit arrêter complètement Prigojine, il a arrêté tous les gens qui étaient les mutins avec lui, il va dissoudre l'unité Wagner, il va les traduire devant les tribunaux, il va les mettre en prison, il va peut-être même les exécuter, puisqu'on est en temps de guerre. Et donc, en temps de guerre, la mutinerie, c'est la pendaison ou la fusillade. Et donc, tant que Poutine n'a pas fait ça, il ne pourra pas redevenir un chef d'État. Le problème, c'est que pour Poutine, même s'il prend ces mesures, en fait, je ne suis même pas sûr qu'il puisse récupérer sa légitimité et son autorité.
Et dans quelle mesure cette mutinerie avortée remet-elle en question la stratégie russe visant à étendre son influence en Afrique? On sait que Wagner est présent dans certains pays africains.
Mais l'Afrique est loin et Moscou est trop près. Et donc, quand ça barde pour Poutine à Moscou, on ne pense pas à l'Afrique. Actuellement, si, lorsque mutinerie a été terminée, donc on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on va faire avec l'influence russe en Afrique? Parce que c'est Prigojine en personne, avec le Wagner en personne, qui a assuré cette présence africaine. Et donc, est-ce que ça va changer? Y compris les gens qu'ils soutenaient en Afrique vont changer d'avis, ou est-ce qu'ils vont se rallier à d'autres personnes ou peut-être directement à Poutine? Et donc, c'est une incertitude qui règne en Afrique.
C'était Sergueï Zhirnov, ancien agent du KGB, principal service de renseignement de l'Union soviétique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Burkina Faso, le président de la transition a procédé dimanche à un remaniement partiel du gouvernement qui compte le départ de 4 ministres. Le secrétaire général du gouvernement a annoncé le remplacement du ministre en charge de la sécurité, le lieutenant-colonel Boukaré Zungrana, par Émile Zerbo. Maître Edasso Rodrigue Bayala prend la tête du ministère de la Justice, entre autres. La défense, les mines, les finances et les affaires étrangères n'échangent pas d'attribution. Pourquoi ce mini-remaniement? Yacouba Ouédraogo a posé la question à Yen Paz, juriste et analyste politique à Ouagadougou.
Si on remonte déjà le temps, on se souviendra que à la prise du pouvoir et quelques temps après, avec la nomination du Premier ministre Kielem, il a été annoncé que chaque 6 mois, il y aura donc une évaluation des différents ministres au niveau de Burkina Faso. Selon les premiers éléments dont nous disposons, on peut mettre ce remaniement sous le coup donc peut-être de cette évaluation semestrielle. Puis peut-être, comme on l'avait annoncé dès le départ, c'était un contrat d'objectif avec les différents ministres qui allaient arriver. C'était, ils avaient obligation de résultats pour reprendre les propos du Premier ministre. Certainement qu'il y a de nouveaux résultats qui sont attendus avec les nouveaux ministres qui intègrent le gouvernement.
Il y a deux ministères qui attirent toute l'attention, le ministère de la Justice et celui de l'administration territoriale. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux remplacements-là?
Au niveau d'abord du ministère de la Sécurité, c'est vrai que c'était un officier supérieur de gendarmerie qui dirigeait. Je pense que au regard des résultats qui étaient présentés par le gouvernement, on peut dire plus ou moins que les résultats étaient plus ou moins satisfaisants, mais ce n'est pas moi qui note, c'est le Premier ministre. Certainement que cet officier est appelé à d'autres fonctions. C'est comme ça que j'essaie de comprendre cela à ce niveau, parce que à ce jour, on n'a pas appris qu'il y avait un problème particulier dans le fonctionnement de ce ministère. On n'a pas appris également qu'il y avait un problème particulier de collaboration avec les autorités militaires et le gouvernement en place. Au niveau du ministère de la Justice, généralement, ce sont des magistrats qu'on nomme à ce poste. L'actuel ministre est un avocat. C'est toujours le secteur de la justice, mais on peut dire que cela a varié. Ce nouveau ministre-là, sa particularité, c'est que c'était déjà un homme politique. Je pense qu'il a été élu député en 2020. Et il a fait 2 ans. Peut-être on peut voir cela aussi sous l'angle de l'ouverture qui est faite aux politiques vu qu'il était déjà engagé politiquement et sous l'angle aussi de la diversité.
Parlant du nouveau ministre de la Justice, Émile Zerbo, on sait qu'il était en charge du pôle antiterroriste. Pensez-vous que peut-être ce sont ces résultats qui ont parlé pour lui?
Je ne sais pas si on peut le mettre sous le coup, mais vous savez que le tribunal Ouaga 2, c'est là-bas que se trouve le pôle spécialisé de lutte contre le terrorisme. C'est certain qu'en tant que procureur, près ce tribunal-là, il a acquis une très grande expérience dans la lutte contre le terrorisme. C'est sûr qu'en termes d'information, en termes de renseignement, il a dû nécessairement collaborer avec les différentes structures qui luttent contre le terrorisme. On peut dire que c'est un homme averti sur les questions de terrorisme.
Alors, ça fait le troisième remaniement ministre en 8 mois de pouvoir pour le MPSR 2. Le premier a été un tout petit peu forcé. D'aucuns disent que c'est trop. Quel est votre avis là-dessus?
Moi, je dirais peut-être que c'est le premier remaniement parce que le premier, c'est vrai qu'entre-temps, il y a un ministre qui a été évincé du gouvernement. Et moi, je m'attendais plus ou moins à cela hein, parce que quand on écoute le premier ministre dès sa prise de fonction, il a dit que chaque 6 mois, il y aura une évaluation et il y en a qui partiront, il y en a qui viendront. Donc, ceux qui partent, c'est pas nécessairement, je me dis, qu'ils ont manqué de compétences, c'est pas nécessairement qu'ils étaient défaillants ou qu'ils ont eu à poser des actes qui ne sont pas dignes. Mais certainement, il y a une dynamique que les uns et les autres veulent impulser.
Yann Paz, juriste et analyste politique, joint à Ouagadougou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Réaction en Guinée après la comparution du ministre de la Justice devant un tribunal à Conakry. Il est visé par une plainte des activistes du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, pour diffamation et abus d'autorité. On fait le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
À la barre, Charles White a nié les faits qui lui sont reprochés. La comparution du ministre de la Justice, garde des Sceaux, est un signal fort, selon cet enseignant.
C'est un signal fort que le ministre de la Justice, par ce tact, envoie pour dire, écoutez, personne n'est injusticiable. Mais de l'autre côté aussi, je vois un autre angle. En tant que citoyen, je me dis, est-ce que ce n'est pas une façon de dire, là où un ministre a comparu, voilà, ce n'est pas du tout un leader politique, qui qu'il soit, mais voilà, peut se soustraire de la justice.
Si cette comparution est qualifiée d'historique par certains Guinéens, d'autres, à l'image d'Alpha Baldé, sont convaincus qu'il s'agit d'une opération de communication.
S'il doit être jugé, c'est devant la Haute Cour de justice. Donc, il sait que la procédure n'aboutira pas. Il a profité de l'occasion pour aller juste faire sa communication, avoir une publicité devant l'opinion.
En tant que ministre et magistrat, Charles Wright reste protégé et la plainte du FNDC a très peu de chances d'aboutir, explique le juriste. Mamoudou Diakité.
Il bénéficie d'une double protection qui fait qu'il ne peut pas être poursuivi devant une juridiction de droit commun. En tout cas, la procédure a toutes les chances d'avorter. Maintenant, par rapport à sa comparution, vous savez, quand vous êtes convoqué devant la justice, c'est une question de forme d'abord. Vous devez vous présenter. Quel que soit votre statut, quelles que soient les raisons que vous avez pour ne pas venir, vous devez venir. C'est une obligation de principe qui fait que le ministre de la Justice s'est déplacé pour être devant le juge.
Le ministre guinéen de la Justice s'est présenté le 23 juin devant le juge à Conakry. Ses avocats ont demandé au tribunal de première instance de Dixine de se déclarer incompétent. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.